Vous écoutez
RMC.
RMC Football Show,
Jean-Louis Tour. Il est 19h, le RMC Football Show continue de vous accompagner sur RMC avec Coach Courbis, toujours en place. Dans cette deuxième heure, on a des infos à vous donner et une Coupe d'Europe à découvrir, puisque demain, premier match donc d'un club français en Conference League, Conference Europa League, je crois qu'il faut dire.
Ouais, pas comprendre, la Conference de presse.
Non, bien sûr. Conférence de presse, c'est ton jardin, coach.
Oui.
On n'a pas trouvé meilleur que toi en conf de presse encore. Donc, ce sera tout à l'heure à 19h30. Cette compétition doit-elle être un objectif important pour le Stade Rennais? Xavier Grimaud viendra nous en parler, lui qui a assisté à la conférence de presse de Bruno Genesio aujourd'hui. Et puis, on parlera du mercato ambitieux des Rennais, près de 50 millions d'euros dépensés cet été. Mais on va commencer par Lyon. Et donc, on va parler de ces jeunes formés au club. Mais d'abord, Edouard G nous rejoint, notre correspondant sur place depuis 35 ans. Salut Edouard.
Salut Jean-Louis, salut coach.
Salut Doudou.
Combien de temps ? 35 ans.
J'ai commencé à RMC en 92, donc 29 ans, bientôt 30 ans.
Ah ouais, on arrive. Hein.
Depuis 98, on y arrive.
Ah ouais, avec 35 ans, j'exagère à peine. Quoi. Faudrait, j'irai 50 la prochaine. Ouais. Bon, Edouard, avant de parler des jeunes, des formés au club, déjà partis ou sur la liste des transferts, une info importante, Lyon aurait trouvé son arrière-gauche.
Oui, Emerson Palmieri, je vous avais parlé hier soir que l'actualité de l'OL au niveau du mercato allait être chargée. Je vous donnais rendez-vous, je pensais pas dès aujourd'hui pour lui, même si hier soir on me faisait signe en disant que on était assez optimiste sur le cas du double champion d'Europe avec Chelsea et avec son pays, en l'occurrence l'Italie, puisqu'il est d'origine brésilienne mais naturalisé sportivement italien. Donc Emerson Palmieri qui va arriver à Lyon demain pour sa visite médicale. C'est fait à 98% me dit-on dans le club. C'est une possibilité, me dit une autre source. Ça confirme un petit peu les informations de certains confrères français mais aussi outre-Manche. Donc tout converge pour un prêt sans option d'achat de l'ancien joueur que l'OL a déjà rencontré. C'était en Europa League face à l'AS Roma en 2017 avant qu'il ne signe du côté de Chelsea. Alors on peut peut-être imaginer une présentation du joueur dès demain ou vendredi, pourquoi pas avant le match de Clermont, parce que c'est clairement un objectif du staff et notamment de Peter Bosz.
Clairement.
Clairement, donc oui, effectivement, pour le match de dimanche, parce que c'est vrai que ça va manquer d'arrière gauche dimanche, parce que Maxwell Cornet est suspendu et que pour l'instant Enrique n'est pas forcément au niveau attendu par Peter Bosz. Et puis Melvin Barr, lui, est transféré
et
déjà.
Et
donc
ne pourra pas jouer dimanche.
Si. C'est l'objectif de l'avoir dès dimanche, donc c'est pour ça que tout va rapidement.
Bon, ça fait déjà
arriver à Lyon demain.
Un souci de moins pour Peter Bosz.
Exactement, donc c'est la réplique, on va dire, de l'OL. Ça y est, on a déjà un recrutement de cet arrière-gauche que l'OL voulait depuis un petit moment. Donc on répète, c'est un prêt sans option d'achat pour Emerson Palmieri.
Alors c'est un joueur, donc tu l'as dit, qui a été recruté par Chelsea en provenance de la Roma en 2018. Alors il a eu du mal à s'imposer à Chelsea, c'est d'ailleurs pas imposé du tout, puisque en championnat sa meilleure saison, elle est à 15 matchs joués il y a 2 ans. L'année dernière, c'est 2 matchs seulement de championnat pour lui. Et attention quand même à la fiabilité du joueur sur l'ensemble d'une saison, parce que il n'a qu'une seule saison à peu près pleine avec 36 matchs disputés, toutes compétitions confondues. C'est la saison 2016-2017. Sinon, c'est quand même pas des grosses saisons. Les autres tournent plutôt à 20 matchs disputés.
Oui, à un poste où tu cours beaucoup.
En plus, oui, exactement. On l'a vu bon avec l'Italie, tout de même, puisqu'il a 19 sélections et
c'était pas simple de remplacer
Spinazzola. Oui.
Ouais, Spinazzola. Exactement. Dès que Spinazzola s'est blessé, on a dit allez, c'est foutu pour les Italiens, et il s'est quand même débrouillé de Emerson.
Voilà. Donc voilà pour l'info mercato du jour. T'as autre chose, Edouard, ou pas? Non.
Non, pour l'instant, non.
Bon, alors on y va.
Dis-nous quelques nouvelles de joueurs là, on ne sait plus où ils sont. Denayer, il fait quoi?
Alors lui, il a été touché par le Covid, donc il se remet doucement du Covid. On va savoir vendredi à la conférence de presse d'avant-match s'il est disponible pour le match de ce dimanche. Voilà, c'est pour ça que c'était Marcelo et Castello Luqueba, le jeune Castello Luqueba du centre de formation, 18 ans, qui formait la charnière centrale sur les 2 derniers matchs.
Et Da Silva?
Il était suspendu pour les 2 premiers matchs, donc lui va revenir, on va dire,
pour les 2 premiers matchs.
Non, donc ouais. Pour les 2 premiers, donc il sera de retour pour ce dimanche.
Bon, ça fait déjà encore un deuxième souci de moins.
Exactement.
Tu veux pas des nouvelles de Cornet? Ah non, on l'a vu, lui. Non, lui, il a joué les deux premières journées.
Ouais, mais lui, dans tous les cas,
il devrait partir.
Mais il a pris carton rouge, donc il est tiré ce plus.
Ah oui, en plus, c'est vrai, pardon. Bon, tu n'as pas de questions sur un autre joueur? Non? On peut aller sur les jeunes? Oui? Allez, on y va.
Et puis, pourquoi pas voir partir. Alors, Oussem Aouar, ça, on en parle depuis un petit moment.
La frappe d'Aouar!
Ça commence avec le cœur.
Ryan Cherki.
Le ballon frappé! Et le but de Ryan Cherki!
On n'a pas vraiment vu une équipe qui veut gagner et ça me dérange.
Alors, hier donc, Edouard, tu nous as parlé de ces joueurs que l'OL mettrait sur la liste des transferts en raison de leur comportement. Donc Marcelo, on en a parlé longuement, qui a été envoyé en équipe réserve. Cinq autres joueurs pourraient éventuellement être vendus presque au rabais. Donc tu nous as parlé de Maxwell Cornet, Thiago Mendes, d'Islam Slimani et de deux joueurs formés au club, Oussem Aouar et Ryan Cherki. On peut ajouter à cette liste des récents formés au club qui sont partis, Melvin Barr cet été à Nice, Amine Gouiri il y a plusieurs mois maintenant à Nice. Alors est-ce que ces joueurs-là qui donc soit partent cet été, soit précédemment, est-ce que c'est un constat d'échec pour la formation lyonnaise dont on a dit du bien pendant de nombreuses saisons? 32-16 évidemment, supporters lyonnais, on va vous donner la parole. Edouard.
Alors, je suis allé un petit peu dans mes différentes fiches et qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai déjà trouvé 36 joueurs formés au club qui opèrent dans l'un des 5 championnats majeurs européens en ce moment. Donc, il y a quand même une belle fabrique de jeunes joueurs du côté de l'OL. Voilà pour ce chiffre. Et après, pour les différents cas que tu as cités, j'ai regardé un petit peu leur historique dans mes différents dossiers. Et en fait, chacun a son histoire personnelle et c'est un petit peu difficile de tous les rassembler et de dire
pas généraliser.
Pas généraliser. Parce que, par exemple, Amine Gouiri, il y a un problème à un moment donné d'impatience parce que Juninho lui propose un prêt à Nîmes, il veut pas y aller, il veut du temps de jeu, à un moment où Rudy Garcia et Juninho ne croyaient pas forcément en lui, il revenait tout juste de son opération au genou, l'OL ne peut pas lui garantir du temps de jeu, il demande à être transféré. Voilà, alors là il y a un petit regret forcément de la formation sur Amine Gouiri quand on voit ce qu'il fait à Nice actuellement. Melvin Barr, Peter Bosz ne croit pas en son potentiel, c'est pour ça que quand on a demandé, ben il avait été mis sur la liste des recrues, des départs. Juninho le pensait un petit peu tendre et on se souvient aussi que l'année dernière Rudy Garcia pensait la même chose. Voilà pour les deux premiers joueurs. Ensuite on peut parler aussi de Pierre Kaloulou. Alors lui c'est un concours un petit peu de pas de circonstances, mais en fait quand il commence à percer, il y a 3 latéraux droits à Lyon. Tété, Raphaël et Dubois. Flo Maurice, à l'époque, est directeur sportif, ne croit pas en lui. Lui s'est senti un petit peu dévalorisé. Il fait un bon championnat d'Europe sur un été. Et finalement, les grandes équipes en Europe se réveillent sur lui. Et l'OL se réveille un petit peu tard, sur fond d'un contexte un peu familial avec différents courants. Lui voulait rester le papa aussi, mais peut-être que les frères ont peut-être poussé pour un départ. Alors, Oussem Aouar, le transfert avorté à City, il y a 2 ans désormais, ben on sent que ça l'a un petit peu cassé un petit peu dans sa dynamique. Il était programmé pour briller et puis rapporter de l'argent, et puis finalement pour l'instant bah malheureusement il végète un peu. Alors il a toujours eu cette suffisance que l'on voit sur le terrain dans les matchs de jeunes, sauf qu'il faisait tellement la différence sportivement parlant qu'on oubliait un petit peu tout ça, et notamment aussi dans ses premiers matchs. Et puis Ryan Cherki, il a toujours eu cette suffisance aussi dans le jeu parce qu'il a tellement dominé chez les jeunes et il faisait gagner que il croit peut-être encore que c'est jouable chez le foot d'adultes, mais il doit encore travailler, il faut l'accompagner, peut-être le guider mieux. Alors, moi, je vous propose deux petites données, peut-être. Est-ce que c'est moins l'académie qui a un problème que peut-être une vision à 2-3 ans du club en général pour ces jeunes? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a un certain nombre, par exemple, hein, Pierre Kaloulou, peut-être, ou d'autres, Amine Gouiri, voulait peut-être avoir un plan, un petit peu de vol, en disant, ben voilà, cette année, tu vas être numéro 3, après, tu peux peut-être regarder, venir dans leur rotation, peut-être proposer ça. Et est-ce qu'à l'OL, on n'a pas une vision en ce moment, au niveau de la direction sportive, peut-être à 6 mois et pas forcément à 2 ou 3 ans pour voir un certain nombre de jeunes? Et puis peut-être aussi, ça on l'a dit l'année dernière, mais je l'ai retrouvé aussi dans mes notes, moi je trouve que quand il y a eu Tolisso, quand il y a eu Lacazette, quand il y a eu Grenier, Gonalon, Umtiti par exemple, chacun a sa période, et entrer dans le groupe et à progresser, il y avait des cadres autour. Des Chris, des Coupet, des Kallström, des Lisandro, des Gomis. Et là, sur ces 12-18 derniers mois, il n'y a pas eu forcément ces cadres qui ont guidé un certain nombre de jeunes. Du coup, on en arrive à peut-être des jeunes qui ne se remettent pas forcément en cause. Mais il y a quand même des... Alors, je vous parle bien évidemment d'Anthony Lopez, mais vous avez Maxence Cacré quand même qui marque quand même les esprits actuellement. Et puis après, le jeune Castello Luqueba, Mal Augusto. Alors là, c'est des jeunes 17-18 ans. Alors, c'est Edouard, difficile d'être titulaire. Mais voilà un petit peu, je voulais brosser un petit peu tous les jeunes.
C'était très bien. Coach, est-ce que selon toi, il y a un sentiment de gâchis à avoir quand on entend tous ces cas détaillés par Edouard? Ou est-ce que tout ça se comprend en fait?
Non, il faudrait quand même qu'on se mette d'accord sur certaines périodes. Je pense que c'est pas depuis hier que du côté de Lyon, il y a une formation qui est tout simplement très très bonne, pour ne pas dire excellente. Et si tu as une bonne formation, il a fallu aussi qu'il y ait des gens compétents pour recruter ces joueurs-là. Par contre, après, il faut faire des constats. Quand tu as le Lyon d'une époque, l'époque Juninho, où tu as ce Lyon qui est champion de France cette année consécutive, ce qui est quand même très difficile à faire. Parallèlement à ça, les jeunes étaient quand même formés et bien formés. Et là, je pense qu'à un certain moment, et c'est pas encore interdit pour aujourd'hui, notamment pour un joueur comme Cherki, ne mélangeons pas les choses entre la préformation, la formation et l'apprentissage. Pour moi, l'apprentissage pour un joueur comme Cherki, c'est un prêt dans un club de Ligue 2 où on choisit l'endroit, bien évidemment, mais surtout aussi le coach. Je te donne un exemple. Si un Cherki va travailler avec le coach de Sochaux à Sochaux, qui est pas très loin de Lyon, je pense que ça fera partie de son apprentissage. Ça sera le meilleur de Sochaux et il sera très content, ou l'un des trois meilleurs joueurs de Sochaux. Et après, il rentrera avec une vision totalement différente.
Le problème, c'est si lui pense qu'il peut déjà s'imposer dans un club qui joue l'Europe en Ligue 1.
Mais c'est là aussi entre
c'est là où il y a peut-être un problème de mentalité.
Mais oui, mais entre ceux qui pensent et ce que l'on doit lui faire penser, voilà, c'est quand même autre chose. Ça me paraît pas être un joueur antipathique. Que ce soit un joueur doué, talentueux, ok, mais il y a des garçons du côté de Lyon, et notamment Juninho, qui peuvent très bien lui expliquer, entre joueurs et entre très bons joueurs, comme pouvait l'être Juni, de lui expliquer qu'il y a peut-être un truc qui est beaucoup mieux que de rentrer en cours de match du côté de Lyon. Ça sera peut-être pour l'année d'après. Essayons d'aller faire une saison avec 30 matchs. Dans l'apprentissage de Aouar, je pense que ça aussi, ça lui a manqué. Pourquoi sortir du centre de formation de Lyon et tout de suite vouloir être titulaire? C'est pas simple. Je vais pas inventer nul les prophètes dans son pays. Tous ces dictons, ils ont pas été inventés par des imbéciles. Donc si tu veux voir Aouar dans un autre endroit que Lyon, il y a 3-4 ans de ça, ou même un petit peu plus, quand il avait 18-19 ans, on le voyait déjà qu'il était talentueux. Mais entre être talentueux et s'imposer à Lyon, c'est quand même pas simple. Il y a aussi un joueur. Bon, on parle pas de Benzema, hein, qui a été quand même un joueur très intéressant pour Lyon.
Et puis pour le coup, il faut le mettre dans la catégorie exception, Benzema.
Voilà. Mais non, mais tu peux regarder aussi un autre qui est passé totalement inaperçu parce qu'il a été transféré en fin de mercato. Il s'appelle Martial.
Oui.
Donc qui a été transféré parce que c'était une période où Lyon avait quand même quelques difficultés pour équilibrer un petit peu les finances. Il est allé à Monaco et pour pas grand chose, mais après il y avait un pourcentage pour Lyon et la négociation. Bon, on sait très bien les qualités de Jean-Michel Aulas et de Vincent Ponceau. La négociation avait été très habile et ils ont pris un pourcentage dans le transfert à Manchester. Donc ces joueurs là, je pense que bon, c'est pas la seule raison, mais un petit prêt dans un club et pas de première division obligatoirement où on va jouer le maintien. Non, je te donne un exemple. C'est pas très loin. Sochaux avec le coach de Sochaux que je trouve très très talentueux.
Omar Daf.
C'est comme si par exemple tu avais prêté à Clermont la saison dernière un jeune de Lyon comme Cherki.
Oui, c'est pas du temps perdu, c'est prêt.
Qui travaille un an avec Gastien à trois avec Laurent Batles. Pour moi, ça doit faire partie de l'apprentissage d'un jeune talentueux lyonnais.
Est-on en train de gâcher les joueurs formés à Lyon ? On continue le débat dans un instant. Edouard reste avec nous. Pierre va réagir également au 32-16, un supporter de l'OL. À tout de suite.
RMC Football Show, Jean-Louis
Tour. 19h19, c'est le RMC Football Show sur RMC avec Coach Courbis. Edouard G, notre correspondant à Lyon, est là. On va évoquer Rennes qui joue demain son barrage de conférence Europa League avec Xavier Grimaud. Est-ce que cette compétition doit être un objectif important pour la saison des Rennes? 32-16, supporters de Rennes, appelez-nous, on vous donne la parole dans 10 minutes. Mais tout de suite, le centre de formation à Lyon, doit-on désormais parler de gâchis quand on voit les départs de certains, quand on voit Kawar et Cherki sont sur la liste des transferts. Pierre nous rejoint au 32-16 pour poursuivre le débat, supporter de l'OL. Salut Pierre.
Salut à tous, bonjour.
Salut Pierre.
Alors, qu'est-ce que t'en penses?
Ben moi, je pense que le centre de formation et les jeunes de l'OL sont un peu victimes en fait de la politique sportive de l'OL depuis quelques années maintenant, qui est basée sur l'achat de joueurs moyens, voire moyens moins, je dirais, et qui sont entre guillemets plus bankable et qu'il faut faire jouer pour les vendre, etc. Et donc du coup, malheureusement, on s'empêche de voir des jeunes qui auraient peut-être plus d'envie, plus de motivation, plus de, et même certaines fois, je viens de dire, plus de talent que les joueurs qui sont dans le, pas dans les 11, mais dans les 15. Et malheureusement, ils en pâtissent. Donc on a sauté une génération là, clairement entre la génération Fekir et celle de Cherki et de Aouar Cherki, etc. Il y a une génération qui est passée à la trappe. Mais clairement, aujourd'hui, voilà, les jeunes va partir Guiri, va partir Barre, on n'est pas surpris. Quand on voit que les pères sont pas là, quand les jeunes le voient, quoi, les jeunes voient que les pères sont pas là, qu'ils sont en concurrence avec des gars qui sont pas forcément meilleurs qu'eux, mais qui jouent jamais. Je comprends aussi que quand on a 18 ans, 19 ans, 20 ans, qu'au bout d'un moment, on regarde ailleurs, quoi. C'est humain. Quand on voit que il y a certains joueurs qui, malheureusement, n'ont pas le niveau depuis 2, 3, 4 ans, ils sont toujours titulaires, quoi.
Ouais.
C'est malheureux. Et aujourd'hui, Guiri, c'est l'exemple type du gamin à qui on n'a pas fait confiance, alors qu'il explose des tours en jeune chez nous et en équipe de France. Et on voit à Nice, il n'avait même pas mis 3 mois pour être au diapason de la Ligue 1, quoi. Donc, c'était même pas un problème de niveau. Et ça n'a pas l'air d'être un problème de mentalité.
Ça fait depuis combien de temps qu'il est à Nice? Plus de 2 ans.
Ouais. Je crois qu'il a fini sa deuxième saison, là. Enfin, il entame la troisième.
Il commence la deuxième, ouais, mais il a fini.
Amine Guiri, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi à un moment donné une forme d'impatience, parce que coach, tu parlais d'un prêt. Il y avait un prêt pour lui à un moment donné pour aller à Nîmes. Hein. Il a pas voulu de ce prêt. Nîmes à l'époque était en Ligue 2. Il n'a pas voulu de ce prêt pour avoir du temps de jeu. Il voulait à tout prix du temps de jeu
Nîmes était en
l'OL, on ne pouvait pas.
Ah oui. Donc pas la dernière année avant qu'il parte. C'est l'anime en Ligue 1 à ce moment-là. Ça devait être avant.
Ouais, ça doit être avant, dans janvier 2019, je crois que c'était en 2020. Voilà. Donc en fait, voilà, il y a un moment donné où faut bien replacer. C'est pour ça que je l'ai fait tout à l'heure dans le contexte du moment, et c'est pas forcément. Chaque cas est vraiment particulier, et là, il y avait un moment donné où il pouvait être un petit peu plus patient, mais aussi, comme je parlais, de peut-être aussi d'avoir cette vision à 2-3 ans pour lui qu'on n'a pas pu lui offrir à ce moment-là. Donc les torts sont vraiment partagés à ce niveau-là.
Et sur ceux du moment, par exemple, ce que tu entends sur Cherki, ça te donne de gros regrets, Pierre, de l'imaginer partir cet été. Ou est-ce que finalement, tu fais confiance à Boss et à Juninho, s'il considère qu'il a pas le bon comportement, ça suffit pas d'être formé au club pour rester à Lyon.
Alors moi, j'y crois pas trop déjà, Cherki, que Cherki part cet été. Mais clairement, le voir exposé ailleurs qu'à Lyon, ça serait vraiment pas dramatique pour nous. Enfin, nous, les supporters lyonnais, on le suit depuis qu'il a 14-15 ans, on sait que ça va être un crack, et puis ça se voit qu'il est largement au-dessus de la moyenne, mais après, s'il n'a pas la mentalité pour, est-ce que ça vient uniquement lui? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres soucis ailleurs? encore une fois, je répète que il est très très jeune. Il vient juste d'avoir 18 ans. On parle de lui comme s'il avait déjà 21 ans et que ça faisait 3 ans qu'il était sur le banc. C'est pas le cas. Donc aujourd'hui, Cherki, Aouar, mais même Cacré, l'exemple de Cacré l'année dernière, c'est exactement ça. Il fait un super Final 8. Pour une raison, on sait même pas, il sort du 11. Il a fallu qu'il ait 2-3 blessures pour qu'il rentre dedans et qu'il soit indispensable. Ben, c'est exactement
ça. À l'instant T, c'était le Covid.
Ah, et l'explosion de Paqueta, quand même. C'est-à-dire qu'au milieu, il y avait Paqueta, Aouar et Mendes. Bon, bah voilà, c'est Paqueta qui prend sa place numériquement sur le terrain.
Bah, c'est surtout Thiago Mendes qui a pris sa place pour pas grand-chose.
Bah, Garcia disait que Mendes était un vrai 6 et que Cacré n'était pas un vrai 6. Donc dans l'esprit de Garcia, c'est il pouvait pas mettre Cacré seul devant la défense.
À la fin de l'année, on a fini avec Paqueta et Cacré sur le terrain sans problème. Et ça marchait très bien d'ailleurs. Mmh. Et d'ailleurs, son impact au milieu de terrain, c'était un profil qu'on n'avait pas. Et c'était il y avait pas de raison sportive. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, il faut faire jouer des joueurs qui ont été achetés chers, voire peut-être même beaucoup trop chers, et il faut les revendre. Les jeunes, malheureusement, ils en pâtissent. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais il y a des exemples partout, à tous les postes. Je suis désolé, l'arrière droit, pour moi, il y a aucun. Enfin, Dubois n'est pas plus fort que Gusteau. Pas sur les premiers matchs qu'on a vus.
C'est bizarre la vision différente que on peut avoir avec ce sacré football et par rapport à la vision des choses. Pendant que vous parlez, je suis en train de penser être entraîneur de Lyon, ouais, et avoir la possibilité de jouer en 4-4-2 avec en même temps sur le terrain Paqueta, Guimarães, Cacré ou Thiago Mendes et Aouar. Et un duo d'attaquants qui démarre le match, qui s'appelle Memphis Depay et Slimani, avec Toko Ekambi qui rentre en cours de match et Kadewere aussi. Sincèrement, ça me fait rêver rien que d'y penser. Excusez-moi.
Dembélé plutôt que Depay.
Non, mais je pense à la saison dernière.
D'accord.
Je pense à la saison dernière. Cette équipe de Lyon, la saison dernière, quand je vois que certaines formules, c'était avec Slimani qui rentre en cours de match, Toko Ekambi côté droit, que c'est son mauvais côté, Kadewere côté gauche ou Toko Ekambi, bref, et pas de Slimani, et Memphis Depay dans un rôle de faux numéro 9, pourquoi pas? Mais quand tu as la chance d'avoir 5 ou 6 milieux de ce talent-là, eh bien, tu es pratiquement dans l'obligation d'avoir des organisations où tu as besoin de 4 milieux, 2 offensifs et 2 relayeurs, récupérateurs et 2 attaquants complémentaires avec des changements en cours de match. Et ça, excuse-moi, mais je l'ai vu quand même assez rarement. Alors, je ne fais pas le professeur, mais je peux quand même rêver, hein, d'être entraîneur de Lyon une partie de ma carrière et avoir cet effectif à mettre en place. Excuse-moi, mais je me serais régalé.
Oui, non, mais c'est sûr qu'il y a un potentiel, c'est sûr, mais bon, voilà.
Surtout que Aouar et Paqueta ont fait leur meilleur match quand ils étaient largement plus haut, hein, et qu'ils n'étaient pas dans le centre du jeu. Ouais. Pour moi, Aouar, il est meilleur à gauche, hein.
On est d'accord.
Pierre, merci d'être venu. En tout cas, c'était intéressant de t'avoir.
Merci
à bientôt.
Beaucoup.
Tu reviens quand tu veux sur RMC. Merci, Edouard.
Bah, demain.
Salut, Doudou.
Bah,
quand t'as une info, tu reviens quand tu veux, tu sais bien.
Ah, mais là, tu as un joueur, un nouveau joueur lyonnais par jour, là.
Bon. Je suis un pour un pour l'instant.
Ça fait cinq recrues dans les 5 jours à venir.
C'est ça. Allez, merci Edouard. À très
boulot.
Vite. Dans un instant, Rennes, la conférence Europa League doit-elle être un objectif important cette saison? 32-16 supporters rennais. On va vous donner la parole et vous donner les infos mercato du moment sur votre club. À tout de suite.
RMC Football Show, Jean-Louis Tour.
19h30 sur RMC. Coach Courbis vous accompagne jusqu'à 21h ce soir dans le RMC Football Show. À 20h, Lille, le champion de France, doit-il s'activer sur le mercato vu le début de saison? Et ils ont peut-être trouvé leur gardien. Jean Baumel viendra nous en parler tout à l'heure. On reviendra sur Dortmund Bayern, la Super Coupe d'Allemagne hier remportée par le Bayern. Mais place tout de suite à la nouvelle Coupe d'Europe. Cette fameuse conférence Europa League, dont le premier match pour un club français se déroulera demain face à Rosenborg. Le Stade Rennais recevra. Alors ça se passe avec des barrages, aller-retour, et ensuite une phase de groupe, comme pour l'Europa League ou la Ligue des Champions. On va en parler avec Xavier Grimaud, notre correspondant dans le Grand Ouest. Salut Xavier.
Salut Jean-Louis, salut Roland.
Bonsoir. Salut Xavier.
Alors, tu as pu assister aux conférences de presse aujourd'hui. C'est un objectif, hein, cette compétition. Nous, on va se poser la question, est-ce que ça doit être un objectif important pour Rennes? 32-16 d'ailleurs, appelez-nous pour en parler. Bruno Genesio, il est à bloc.
Ah oui, c'est un objectif déclaré par le club, déclaré par Bruno Genesio, un objectif majeur, pour citer l'entraîneur rennais, majeur parce que une qualification en phase de poule en Coupe d'Europe marque la progression d'un club, et ce serait la quatrième saison de suite que Rennes jouerait les poules d'une Coupe d'Europe. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du club, donc il n'y a pas de pression négative, a dit Genesio, mais il n'y a pas de rattrapage et je ne m'imagine pas ne pas être qualifié pour la phase de poule. Alors il a quand même évidemment mis quelques réserves en disant qu'il fallait faire très attention à Rosenborg, les Norvégiens qui sont en train de s'entraîner à l'instant d'ailleurs sur à la pelouse du Roazhon Park. Mais voilà, ça sera pas simple parce que Rosenborg, on pourra en reparler, c'est une équipe qui a plus d'expérience finalement foncièrement que Rennes en Coupe d'Europe. Après, en termes de niveau, on verra ce que ça vaut demain. Et cette Conference League, elle est un petit peu raillée, Jean-Louis, Roland, notamment en France, hein, le coach de Rosenborg, quand je lui posais la question, disait en souriant un peu jaune, en disant non, cette Coupe d'Europe, elle est formidable pour des pays qui n'ont pas l'occasion de la jouer pour progresser. Elle est un peu raillée en France. Bruno Genesio, il la défend aussi, on peut l'écouter. Cette C4 que l'on va découvrir demain à Rennes.
On peut penser que c'est une Coupe d'Europe au rabais, un petit peu ce que j'ai entendu pas mal de fois, mais lorsqu'on regarde déjà le tableau de ce play-off, il y a des grandes équipes, il y a aussi des équipes, je vous l'ai dit, notamment Rosenborg, qui ont participé par le passé à la Champions League. Et il y aura, lors des phases de groupe, une compétition relevée, qui est plus pour moi une Europa League bis qu'une Coupe d'Europe au rabais. Pour les joueurs, c'est toujours plus intéressant d'avoir des matchs comme ça à disputer, même si on joue tous les trois jours, plutôt que d'avoir un seul match par semaine.
Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'on fait vivre une saison. Oui, Jean-Louis.
Non, Roland, tu voulais réagir là, ce que tu entends de Genesio?
Oui, dans le sens que, si tu veux, par rapport aux coupes nationales, ben c'est un petit peu la coupe de la Ligue européenne. Donc ouais. C'est pour moi l'Europa League bis, mais ça n'a rien à voir avec la Champions League. Par contre, jouer cette Coupe d'Europe, bien évidemment que je suis d'accord avec Bruno, dans le sens que c'est une très très bonne chose pour le club, pour le public. C'est quand même une coupe d'Europe, donc et être quatre fois qualifié pour les différentes coupes d'Europe quand on est Rennes, et avoir démontré que même avec la présence du Paris Saint-Germain, on peut gagner aussi une Coupe de France de temps en temps, pas seulement être champion de France de temps en temps. Donc je pense que c'est très bien. Et d'ailleurs,
non mais je te coupe, pardon, mais je comprends plus rien. Coach Courbis qui nous désingue l'Europa League, match le jeudi, c'est compliqué pour le week-end après, etc., tout le temps. Là, la conférence Europa League, c'est encore moins attrayant que l'Europa League, et tu trouves ça formidable?
Mais attends, mais comment ce qui est comparable là? Tu me taquines. Si tu me poses la question à savoir si je suis entraîneur d'une équipe française et si je n'ai pas l'effectif pour pouvoir jouer les deux épreuves, ben évidemment que je préfère ne pas la jouer. Mais là, les Rennais mettent en place quand même un effectif avec tous les postes doublés qui leur permettent justement de pouvoir jouer ce truc-là. Donc si ils ont l'effectif pour, moi le problème de ce match de jeudi, c'est
quand t'as pas deux équipes, quoi.
Ouais. Exactement. Mmh. Donc c'est très compliqué. On le verra tout au long de la saison. Mais là, le stade rennais qui a la chance. Et tu as vu un petit peu encore, là, il est arrivé un joueur que j'ai toujours trouvé très bon quand il était à Angers.
Santa Maria.
Santa Maria. Donc tu as les postes pratiquement qui sont presque, je dis pas tout à fait, mais presque tous doublés. Donc tu as un public quand même qui est un public qui est présent et qui supporte son équipe. Ce stade, j'ai eu le plaisir de le connaître, je le trouve magnifique aussi, il fait partie des plus beaux stades qu'il y a en France en ce moment. Ça ressemble à un stade anglais. Donc je trouve que c'est une très bonne chose, mais je n'ai pas changé. Si tu n'as pas l'effectif pour jouer le jeudi, Mais il vaut mieux que tu sois devant la télé comme certaines équipes.
Ben, je respire. On n'a pas changé Roland, mon coach Courbis. Oui.
Bémol, Roland, quand même, sur l'effectif doublé, les recrues, c'est vrai que le Stade Rennais a beaucoup recruté, on va en reparler. Beaucoup pour remplacer des joueurs qui sont partis, hein, des cadres qui sont partis.
Oui, il y a pas mal de départs, effectivement. Doublés, oui.
Et sont doublés surtout par des très jeunes joueurs. Et c'est là aussi que ça peut être une limite dans la saison. Le club a fait le choix d'avoir un tiers de très, très jeunes.
Il manque un arrière central et puis on n'est pas encore au courant, ou à moins que tu aies des tuyaux, on n'est pas encore au courant de ce que va faire Kamavinga.
Non, Kamavinga, c'est le grand flou. Le club non plus n'est pas au courant. Ça pourrait, son agent chez Stellar Sport a dit récemment que ça pouvait se jouer dans le dernier jour, qu'il n'y avait pas d'urgence. Il y en a un petit peu plus pour Rennes, qui du coup ne le fait pas jouer titulaire, comme on a vu à Brest. Bruno Genesio qui disait que Kamavinga n'avait pas la tête au foot. Il y aura encore des recrues. Il y a notamment le Croate Lovro Majer qui joue au Dinamo Zagreb. C'est un milieu offensif de 23 ans, apparemment avec de grosses qualités techniques, et qui a un accord avec le club et qui, si tout se passe bien, devrait signer. Là, il a le barrage retour à jouer avec son club de Ligue des Champions. Ça s'est mal passé pour eux, ils ont perdu 3-0 hier, donc ils pourraient arriver très vite. Il y aura peut-être un remplaçant à Kamavinga si Kamavinga part, un défenseur central, Roland, tu l'as dit. Donc voilà, ça va encore bouger. Et justement, Rennes a énormément recruté, 49 millions d'euros hein, jusque-là, avec Loïc Badet, Souleymana, Melling, Santa Maria, donc hier. Est-ce que ça amène de la pression au club et à Bruno Genesio? Parce que derrière Paris, aucun club n'a autant recruté. On va écouter Bruno Genesio. Est-ce que le club a une obligation de résultat au vu des investissements cet été?
Si je suis venu au Stade Rennais, c'est pour l'ambition du club. Sinon, je serais resté où j'étais. Donc, moi, ça me convient et je préfère avoir une obligation de résultat qui soit liée à la qualité du groupe. Et je préfère ça à avoir une équipe moins ambitieuse où on s'ennuierait. Donc, faut remercier le propriétaire et la famille Pinault dans ces moments qui sont des moments difficiles pour le foot en général, de nous avoir donné de tels moyens.
Bah c'est sûr que c'est pas rien, pouvoir recruter 50 millions d'euros dans c'est la rare. Période actuelle. Alors après, il faut savoir si c'est lié à Kamavinga ou pas. S'ils anticipent déjà une vente et une rentrée d'argent de Kamavinga.
Oui, ça peut l'être, mais tu as la chance d'avoir François Pinault qui peut se dire « Bon, allez, on va peut-être encaisser 30 ou 35 millions pour Kamavinga, ce qui est déjà pas mal pour une petite année de contrat, il reste 10 mois de contrat.
Ce serait déjà énorme. Il partirait sans doute pour moins, Roland, voilà. Parce que plus le temps avance, plus ça va
donc,
tirer vers le bas.
Là, ça diminuerait l'investissement. Mais si Kamavinga ne perd pas, je ne pense pas que François Pinault sera en faillite. Hein. Donc, il attendra quelques mois pour avoir certains départs et pouvoir rentrer une partie de son argent.
Oui. Demain, il pourrait y avoir des recrues de, je pense, Souleymana, a priori, Badet, Santa Maria, demain il peut ou pas?
Alors Badet, de toute façon, il sera titulaire évidemment. Hein, c'est la défense avec Naïef Aguerd et les remplaçants sont pas forcément encore au niveau et surtout inexpérimentés, que ce soit Niamsi ou Omari. Santa Maria devrait être titulaire, c'est quasiment une certitude. Hein, il est prêt, il a joué avec Fribourg, on le connaît, c'est un joueur qui a un physique assez exceptionnel. Et Bruno Genesio l'a dit entre guillemets pendant la conf en disant que malgré tout, il fallait pas enterrer le jeune Hugo Chocou qui est titulaire depuis le début de la saison, qui a 18 ans. Donc, Santa Maria devrait jouer. Après, devant, c'est pas trop encore. Il y a une incertitude. Guirassy peut-être titulaire. Est-ce qu'on pourrait voir Etterier et Guirassy pour avoir un peu d'impact physique avec des joueurs de Rosenborg qui, eux, sont à mi-championnat. Donc, on peut penser que physiquement, ils sont plus prêts que les Rennais. Et Souleymana et Doku sur les ailes, possibilité quand même qu'il n'y ait qu'un seul des deux. Peut-être Jérémy Doku et que Bourigeaud soit de l'autre côté. À voir s'il y aura les deux ailes.
Et Kamavinga sur le banc encore ?
Kamavinga, c'est la logique, Roland. La logique voudrait, si Bruno Genesio est cohérent avec le discours qu'il tient, il ne devrait pas être titulaire et rentrer peut-être en cours de jeu comme il l'a fait à Brest.
D'accord.
Et tu nous parlais de Rosenborg, donc équipe qui a l'expérience européenne.
Bah oui, c'est une équipe qui joue tous les ans les phases de poule d'Europa League. Voilà, une équipe qui est un peu en déclin dans son championnat. Ils n'ont pas été champions depuis 2018, alors que c'est le gros club de Norvège. Plus de Ligue des Champions depuis 2008. C'est un nom qui parle un peu quand on se souvient de la Ligue des Champions des années 2000. Ils avaient joué Paris, Jean-Louis, tu t'en souviens,
avec un 7-2, c'est ça. Oui. Hein.
Ouais, le fameux 7-2. Ils avaient joué Lyon aussi deux fois en phase de poule. Donc voilà, c'est plus exactement la même équipe. Et le coach l'a dit, Rennes, c'est un autre calibre que ce qu'ils ont vraiment jouer. Il allait falloir que son équipe monte vraiment d'un cran, de deux crans son niveau pour essayer de se qualifier. Donc voilà, on peut penser que Rennes sur le niveau est favori, mais méfions-nous parce que Rosenborg, on ne sait pas exactement ce que ça vaut.
Demain dans les buts, ce sera Gomis. Je sais que c'est des sujets qui plaît à Roland. Il n'y a pas d'alternance des gardiens, donc Gomis va faire toute la saison.
Bah écoute, c'est.
Mais qui a eu du mal l'année dernière, hein, c'est pour ça.
Ouais. Et qui a encore eu une première journée un peu compliquée face à Lens, un meilleur match face à Brest où il a fait des arrêts. Quand on pose la question, il y a une vraie question sur les gardiens et sur le niveau notamment d'Alfred Gomis, qui est pas au niveau d'Edouard Mendy évidemment, mais même en deçà de ça. Voilà, quand on pose la question, la réponse est claire. Alfred Gomis est numéro 1, Romain Saint-Lin numéro 2, et la saison est censée se faire comme ça.
C'est sûr que c'est pas facile de remplacer Mendy.
Non, oui, c'est sûr. Gildas nous rejoint au 32-16, supporter de Rennes. Salut Gildas.
Oui, bonsoir messieurs, ça va bien?
Bah ouais, très bien, et toi?
Oui.
Bon, trois ou quatrième saison avec une Coupe d'Europe. Quatrième, hein, voilà.
À quatrième.
Pour le Stade Rennais, tu t'habitues, hein?
Ouais, on commence à y prendre plaisir, hein, c'est sûr. Hein, ça fait des matchs qui sont toujours intéressants à avoir joué au Roazhon Park, quoi. Hein.
Ouais, même si c'est donc cette nouvelle Coupe d'Europe, t'es excité?
Ah bah ça reste toujours une Coupe d'Europe. Voilà, c'est une nouvelle formule. On va voir, avant de venir critiquer, il faut qu'on voit ce que ça donne. Déjà, on a Rosenborg, c'est une belle affiche. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. C'est une équipe qui est habituée un petit peu à l'UEFA, à la Ligue des Champions, les Coupes de l'UEFA. Donc, on verra bien. Je pense que l'effectif a un peu évolué depuis quelques saisons. Ça a redescendu un peu. La preuve, on l'a joué en Coupe Conférence. On verra.
Ouais. Alors après, on est d'accord qu'on parle de nouvelles formules. Il y a une phase de groupe. Là, il y a un barrage. Ensuite, il y a une phase de groupe. Et ensuite, ça passe en élimination directe.
Alors, on peut rappeler rapidement, Jean-Luc, ouais, si tu veux, il y a 8 groupes de 4. Donc l'Europa League passe de 48 à 32 groupes. Donc en fait, on a 32 équipes. Pardon. Donc on récupère 16 équipes d'Europa League, ce qui peut faire effectivement une Europa League bis, comme tu disais, Roland. Il y a une phase de poule où seul le premier sera qualifié directement pour les 16e et le deuxième de chaque groupe passera un barrage contre le troisième des groupes d'Europa League. Voilà.
Ah oui, d'accord. Oui. D'accord. Bien de le préciser, oui.
C'est plus intéressant, voilà, effectivement.
Et après, on est en
directement. Après, on est en 16e. En 16e de finale. Ah ouais. Et ensuite, 16e, 8e, okay. Classique.
Bah, l'objectif, c'est d'arriver au match à élimination directe, Gilda. C'est ça qui est sympa en Coupe d'Europe.
Bien sûr. Mais c'est ça qui est le plus sympa. C'est vrai que le match référence, je pense, c'est quand même ce match contre Arsenal à domicile qui était quand même. On avait un stade en fusion qui était en pleine. Ébullition complète, et puis on faisait vraiment une vraie fusion avec notre équipe. On était vraiment le 13e, voire le 14e homme, tellement il y avait le feu dans le stade. C'était vraiment une ambiance, et c'est quelque chose qu'on a envie de revivre, qu'on a aimé à vivre avec cette équipe. Faut pas oublier que c'est quand même cette équipe qui nous fait vibrer, donc faut les encourager. C'est vrai qu'on est un peu en train de reconstruire depuis à peu près un an et demi, on va dire une grosse année, puisqu'on a perdu quelques bons éléments. Mais bon, effectivement, est-ce que ce match n'arrive pas un peu tôt dans la saison? On est en train de préparer encore au niveau tactique, je pense. Je vois, il a aligné Doku et Sulemana ce week-end. Ça n'a pas été forcément payant. Je pense que dans l'idée, c'était quelque chose qui était très offensif, qu'il fallait tenter. Bon, on va voir. Je pense qu'il faut qu'ils trouvent à jouer ensemble. Et puis, mais bon, j'espère que ce match n'arrive pas trop.
Qu'est-ce que tu penses du mercato pour l'instant, de ce que tu as vu?
Bon, c'est vrai que vous étiez en train de lever le problème du gardien. Bon, je pense qu'on est plusieurs à le penser. Effectivement. Bon, on remplace pas Mendy comme ça. C'est vrai que voilà, si Chelsea est venu le chercher, c'est qu'on sait. De toute façon, nous on l'a vu, c'était quelqu'un qui avait des très grandes qualités. Tant mieux pour lui, il a trouvé le club qu'il fallait pour lui. Il a été champion d'Europe. Malheureusement pour nous, je pense que ça a été un peu tard le départ, ce qui fait qu'on a peut-être été dans la précipitation. Après, bon, je fais confiance comme recruteur. Gomis, ils ont été le chercher. Ils savaient qu'ils avaient cette carte à jouer. Pourquoi ça fonctionne pas à Dijon? Ça fonctionnait, hein. Bon, et effectivement, on voit qu'ils ont encore la main sur peut-être un jeune Turc, c'est ça, si je me trompe pas, avec Edisport. Non, c'est ça.
Oui, c'est celui dont a parlé Xavier tout à l'heure.
Ouais, donc
le milieu offensif.
Sur un gardien. On parle,
pardon.
Sur un gardien.
Ouais. C'est vrai qu'il est jeune, mais après bon.
Et ce serait pas forcément pour jouer de suite.
Ouais, ça serait plus, je pense, pour peut-être après quand Salin va partir, peut-être pour jouer une passe de numéro 2. Bon, et on va jouer avec ça, on fait comme avec ce qu'ils font, et puis ben on va voir. Et après, ce qui va nous manquer, effectivement, c'est le départ d'Enzonzi. Ça serait bien de l'appareil
d'après. Il y a Santa Maria.
Oui, qui est arrivé, mais il nous manque. Voilà. Avec Camavinga, ça serait bien d'avoir un deuxième, si tu veux, je pense, non?
Oui,
c'est l'idée. C'est l'idée, si Kamavinga s'en va, l'idée de le remplacer de toute façon. Donc, ça pourrait être justement l'Ovro-Majer qui pourrait signer. Mais voilà, après, c'est vraiment que des jeunes mm-hmm. derrière, hein. Les Andy Diouf, les Matistel qui a 16 ans, qui a signé son contrat pro hier et qui a battu le record de précocité de Kamavinga. C'est vraiment des jeunes, vraiment jeunes pousses. Est-ce qu'ils seront
mûrs pour le niveau? Si on joue l'Europe, faut jouer le championnat aussi. Donc, nous, on peut pas forcément doubler nos places comme peuvent faire les top 3, top 4 de devant. Mais si on veut avoir cette envie de jouer l'Europe toutes les années, bah, il va falloir qu'on aguerrisse un peu nos jeunes, effectivement. Et il va falloir que, pour jouer sur les tableaux, qu'on ait l'effectif complet, quoi. Mmh.
Très bien. Bah, Gildas, merci d'être venu au 32-16. À très bientôt.
Bah, merci,
bon match demain, hein, bien sûr, qu'on pourra suivre sur RMC. Droit, hein,
et puis, bah, tous derrière nos Rennais.
Salut Gildas, à bientôt. Xavier, merci.
Messieurs, je vous en prie.
Bonne soirée. À demain, bien sûr, pour cette rencontre. Et on va revenir dans une seconde avec des infos mercato concernant la Ligue 1. Plusieurs choses à commenter qui se sont passées aujourd'hui. Et puis un match de Ligue 2, un match de la deuxième journée, un match en retard entre Quevilly-Rouen et Bastia. Pour l'instant, Bastia mène 1-0 sur le terrain de Quevilly-Rouen. Un but de Diong. Les infos mercato dans une seconde, notamment autour du phénomène du début de saison. Mohamed Bayo, l'attaquant de Clermont. À tout de suite.
RMC Football Show, Jean-Louis Tour.
19h48 dans le RMC Football Show, coach Courbis est là jusqu'à 21h. À partir de 20h, Lille au programme, les champions de France doivent-ils absolument recruter dans ces derniers jours de mercato? Ça a bougé au poste de gardien de but. On en parlera avec Jean Baumel dans un instant. On va revenir également sur Dortmund-Bayern, la finale de la Supercoupe qui avait lieu hier, remportée par le Bayern. Paulo Breitner sera avec nous tout à l'heure. Et puis des infos mercato donc à commenter. Coach, je te parlais donc de Mohamed Bayo qui est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Clermont Foot, donc qui a mis 3 buts en 2 matchs pour l'instant avec Clermont.
Et qui a fait une superbe saison dernière.
Exactement, alors il est annoncé sur le départ en cette fin de mercato, mais on se dirigerait plutôt vers une prolongation de contrat. Clermont est ferme depuis le début du mercato, il n'est pas à vendre, lui pourrait avoir envie de partir, mais face donc à l'entêtement du club, eh bien, il pourrait négocier une prolongation de contrat. Ça a pris un peu plus d'épaisseur ces dernières heures, ces derniers jours. Voilà.
Oui, une prolongation de contrat pour une sécurité et un accord aussi qu'on fait cette année-là, qui est l'année de la remontée, pour atteindre l'objectif qui est le maintien, et on se met d'accord pour un transfert dans un an.
Oui, exactement. Voilà. Donc voilà pour Bayo. Hein, d'ailleurs, à l'arrivée, tout le monde est gagnant. Enfin,
complètement. Mais même lui, qu'on parlait tout à l'heure, l'apprentissage pour un joueur, même si ce n'est plus un très très jeune joueur. Et bon, évidemment, c'est 23 ans.
Donc, oui, c'est ça.
Donc, ben ça, c'est déjà très bien pour lui de faire la saison qu'il fait la saison dernière et qu'il est l'artisan numéro 1 de la montée, même si on est dans un sport collectif. Et là, ça va être aussi certainement l'artisan numéro 1, c'est parti pour en tout cas, du maintien. Si après avoir fait monter Clermont, il aide Clermont à se maintenir et il réussit et qu'il parte dans un an, mais c'est magnifique comme parcours.
Je vous rappelle les infos qu'on a données hein, depuis 18h. Donc Diop va prolonger jusqu'en 2026 à Monaco. Emerson à Lyon, ça brûle. Pour l'arrière-gauche qui était à Chelsea cette saison, il devrait donc rejoindre l'Olympique Lyonnais. Une recrue à venir à Bordeaux pour 5 millions d'euros. Alors ce sont nos confrères de 20 minutes qui en parlent.
Mais ils n'ont pas de sous.
Bah écoute, ils devraient mettre 5 millions donc sur Fran Sergio, qui est un milieu de terrain brésilien de 30 ans, qui jouait au Portugal à Braga. C'était un des éléments essentiels de l'équipe. Il a joué 45 matchs, toutes compétitions confondues, la saison dernière. Donc voilà. Et il pourrait passer sa visite médicale demain pour peut-être pouvoir jouer dès ce week-end. Ça mettrait donc un peu d'expérience au milieu de terrain.
C'est bien ça.
Ouais, voilà. Mais
non,
c'est vrai que.
On était inquiets, mais bon, ça fait déjà 3e joueur, non ? Il n'y a toujours pas de départ ?
Non, effectivement. C'est toujours particulier parce que ces clubs qui disent qu'ils n'ont pas d'argent et en même temps ça fait partie aussi, je pense, un peu de la stratégie. C'est-à-dire que quand tu arrives en disant j'ai beaucoup d'argent, bah forcément toutes tes négociations tu les fais à la hausse.
Ouais, d'accord. Mais
quand... Je sais pas, Marseille c'est pareil. Je crois qu'ils n'avaient pas d'argent et ils enchaînent plein de recrues.
D'accord. Mais quand tu dis t'as pas d'argent aussi, tu es sûr qu'on va pas te donner une fortune pour t'acheter un joueur?
Oui. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui, il y a le revers de la médaille. Un des jeunes prometteurs de la Ligue 1 devrait quitter le championnat. Alors, il jouait à Caen en Ligue 2. C'est Beka Beka. Tu sais, notamment André Pierre.
Il n'y a qu'un joueur, quand même.
Il n'y a qu'un joueur, mais exactement, même s'il s'appelle Beka Beka.
C'est pas un duo.
Non, exactement. Alexis Beka Beka, donc 20 ans, milieu de terrain très prometteur, donc qui jouait à Caen jusque-là. Normalement, on pouvait s'attendre à le voir en Ligue 1. Bah non, il aurait dit oui, selon Loïc Tanzi, notre spécialiste du mercato, au Lokomotiv Moscou. Voilà, choix de carrière particulier, non ?
Ouais, mais ça doit être un bon contrat aussi. C'est un grand club russe, attention, hein, Lokomotiv Moscou, les installations qu'ils ont et tout, c'est magnifique. Et là, il y a un montant de transfert ?
Écoute, je ne l'ai pas en tout cas. Loïc ne l'a pas obtenu non plus, mais ça devrait filtrer dans les jours qui viennent. Mais voilà, 20 ans, il devrait quitter donc la France. On parlait de jeunes joueurs prometteurs. On parlait même d'ailleurs tout à l'heure de jeunes joueurs prometteurs formés à Lyon et qui sont partis tôt ou devraient partir tôt. Ouais. Miziane Maolida. Lui est parti donc à Nice en 2018. Ben, il devrait quitter le club pour aller en Belgique, à Anderlecht. Voilà. On parle d'un prêt éventuellement pour lui, mais lui aussi c'est plutôt un échec. Hein, à Nice, il n'a jamais réussi à s'imposer.
Ouais, pour le moment. Ouais, maintenant Anderlecht en Belgique, pas simple non plus pour s'imposer. Mm-hmm. Donc on le lui souhaite, bien évidemment.
Exactement. Et puis des infos donc à l'étranger. On aura le temps de les détailler tout à l'heure, hein, à 20h45. Mais on évoque un intérêt important de l'Inter pour remplacer donc Lukaku, parti à Chelsea, pour Marcus Thuram. Voilà, il serait sur les tablettes donc de l'Inter selon la presse italienne. Marcus Thuram qui était au Borussia Mönchengladbach jusque-là.
Ouais, mais il y a déjà
Dzeko, ouais, effectivement. Oui, c'est ça. Ça pourrait compléter. D'ailleurs, c'est pas le même profil que Lukaku. Hein. Thuram, il aime bien partir du côté gauche.
Ouais, absolument.
Voilà, c'est 25 buts en 80 matchs avec le Borussia Mönchengladbach. Donc, ce serait pas mal pour lui. Ce serait une belle progression de carrière.
Bah oui, pourquoi pas.
Lui qu'on a vu avec l'équipe de France et qui doit encore confirmer ce pas supplémentaire. Et puis alors on parle depuis plusieurs jours de Manchester City et de cet intérêt pour Harry Kane. Nos confrères de la presse anglaise parleraient d'une offre de 180 millions d'euros pour City, pour Harry Kane. Ce serait la dernière offre. 180.
Ah mais je pense que celle-là, ça va être la bonne.
Tu crois ?
Bah oui.
Alors évidemment ce sont de grosses offres, mais on voit quand même que les Anglais répondent présent au niveau mercato, hein. Grealish 117, Lukaku 115, Manchester United qui prend Varane et Sancho. La crise touche pas tout le monde, mais surtout pas les Anglais.
Ouais, complètement.
Donc voilà pour les infos mercato du moment. On aura le temps d'en détailler d'autres, hein, tout à l'heure, aux alentours de 20h45. On revient pour la dernière heure du RMC Football Show. Paulo Breitner avec nous pour donc la finale de la Supercoupe d'Allemagne remportée par le Bayern hier 3-1 face à Dortmund. Il y a plusieurs enseignements à tirer de cette rencontre. Et puis Lille, dans un instant, Jean Baumel va nous rejoindre. Les Lillois doivent-ils absolument s'activer sur le mercato, eux qui pour l'instant n'ont enregistré que deux départs, donc forcément, il n'y a peut-être pas forcément besoin de bouger. 32-16, appelez-nous, supporters lillois. Djibo sera avec nous pour nous parler du dossier du gardien, puisque ça s'est activé ces dernières heures. Il va nous en parler dans un instant. Et donc, 32-16, appelez-nous pour débattre. Je vous rappelle également qu'on a des places à vous offrir dans le RMC Football Show pour Nice-Marseille, dimanche, 20h45. On a plusieurs places, donc allez-y, hein. Certaines sont déjà parties. Vous pouvez appeler le 32-16 pour vous donner une chance d'assister à cette rencontre. L'opposition Galtier-Sampaoli, a priori, ça devrait être beau sur les bancs de touche. Deux équipes spectaculaires en ce début de saison. Donc appelez-nous au 32-16 pour peut-être gagner l'une de ces places. A tout de suite pour parler de Lille.
RMC Football Show.